Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo qui n'était pas prévue au départ. Et puis je me suis dit quand même, concernant le thème proposé, qui est de dire est-ce que la Terre est plate ou est-ce qu'elle est ronde. Je sais que dans la vidéo précédente, j'ai donné un certain nombre d'informations, mais qu'il y aura forcément des personnes qui diront, mais là, je ne comprends pas comment ça se fait, parce que tu ne réponds pas à la question. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, et comme je dis, cette vidéo n'est pas forcément pour tout le monde, parce que si déjà vous arrachez des fois un peu les cheveux de la tête concernant ce que je dis, là, vous allez peut-être avoir des ennuis. Alors, je m'adresse seulement à des personnes qui vont avoir l'esprit ouvert ou qui ont fait suffisamment de mathématiques pour savoir de quoi je parle. Alors, je ne veux pas parler mathématiques, mais je vais partir sur un truc relativement très simple. C'est que vous savez que pour représenter la Terre, eh ben en fait, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Dit autrement, toutes les cartes qui existent de la Terre sont fausses. Donc, il faut déjà comprendre ça, déjà au départ. Il n'y a aucune carte qui est vraie. Ce n'est que des approximations et je vous donnerai toutes les preuves. Et donc, certains arguments qui sont apportés pour la Terre plate, je peux vous dire que certains arguments ne tiennent absolument pas la route. Mais, c'est comme tout, quand on est convaincu d'un truc, à la fin, on en oublie d'autres logiques qui fait que on prend pour argent comptant, on dit c'est comme ça et puis c'est tout. Mais je vais vous donner quelques exemples, j'ai noté quand même là. Parce que quand même, après la première vidéo, je me suis dit, ouais, il va y avoir des déçus, ouais, ils n'ont pas tout compris, donc on va reprendre et un petit peu plus dans le détail. Alors après, vous pourrez pinailler, dire je suis pas d'accord, tout, etc. Mais ce sera votre problème, pas le mien. Hein, pour la simple et bonne raison, c'est que la représentation que nous faisons de la 3D est directement proportionnelle, on va dire, à nos croyances. Donc il est évident que vous avez certaines croyances, hein, que voilà. Donc nous savons bien que la vitesse de la lumière va plus vite que 300 000 km/s, puisque n'importe quel astronome peut le vérifier. Simplement, il est dit que si ça dépasse ça, on a un problème. Donc ce qui a le problème, en fait, c'est la formule d'Einstein qui a un problème. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous trouvez des choses qui ne collent pas, qui ne vont pas, qui ne marchent pas dans la logique que nous avons, ce n'est pas la création qui est fausse, c'est l'interprétation qu'on en fait. Donc, ce qu'il faut remettre en cause, hein, c'est les postulats à ce moment-là. Bon, alors, revenons toujours à la base de la base de la base de la base, où j'avais parlé, toujours on repart du moteur. Ah, et vous allez le savoir à la fin. Hein. Alors, ici, on va y mettre du féminin, et ici, on va y mettre du masculin, j'ai de la géométrie. Voilà. Alors, voyons maintenant, d'un point de vue pratique, à partir d'un truc très simple, peut-être une chose que vous ne savez pas, vous n'avez peut-être pas compris à l'éducation nationale, c'est qu'on vous a appris les choses, évidemment, mais par rapport à des postulats. Alors, le premier postulat, qui est relativement simple, je vais le diviser par deux, comme ça, va être tranquille. Le premier postulat, c'est qu'il existe X, Y et Z. Trois dimensions. D'accord? X, Y et Z. Voilà, les trois dimensions sont là. Donc, tout est parfaitement droit, linéaire, et nous disons que quand nous regardons la surface de l'eau, c'est plat. Vous pouvez bien imaginer que cette platitude est peut-être véritable sur une petite échelle, mais sur une grande, là, on a un problème. Parce que si la Terre est ronde, on a un problème. Tout le monde le sait. Donc, si je fais une droite sur, on va dire, enfin, attendez, je vais faire comme ça, si je fais une droite posée sur un cercle, on a forcément un souci. Bon, alors, vous allez me dire, ouais, ouais, mais là, la Terre plate, on a mesuré les trucs, il n'y a pas la courbure de la Terre, tout. Donc, vous allez voir, vous allez voir. Hein. Alors, déjà, une chose qui est claire, c'est que cette fameuse géométrie, X, Y, Z, enfin, quand on dit géométrie, généralement, c'est sur X, Y, hein, parce que les Grecs, là, le Z, ils ne comprenaient pas trop, là. Hein, ils faisaient tout sur le plan. Alors, on a appelé ça la géométrie selon un type qui s'appelle Euclide, un grec, la géométrie euclidienne. Donc la géométrie euclidienne part d'un postulat très simple. Quand je regarde une droite, je vois un point, parce que tous les autres, ils sont enfilés derrière. Là, juste une chose, c'est que dans la nature, ça n'existe pas. Parce que déjà, dans la nature, tout est courbe. Donc on part, c'est-à-dire au lieu de prendre un véritable truc, on prend sur un petit, et puis on dit, voilà, c'est ça, hein, puis ça c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il n'y a pas de problème. Donc, si ça, ça me donne une droite, Euclide part sur le principe que si je prends un autre point ici, c'est une autre droite. Et qui sont dits parallèles. Donc, la base de la géométrie euclidienne, c'est de dire que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. C'est la définition du parallélisme. Bon. Donc, à partir de là, on a élaboré, les Grecs ont élaboré une grosse géométrie avec des tas de choses, etc., etc. Tout va bien. Tout va bien. Si on est en x, y, z, et comme on pourrait dire, c'est de là que quand même est parti notre copain Newton. Donc on est toujours dans la fameuse 3D où on étudie la 1D, 2D. Puisque je vous ai dit que quand Einstein il a commencé à dire si la quatrième dimension c'était le temps, il a commencé à dire le temps n'est pas absolu. Puisqu'ici on a le temps des étoiles, qui semblerait être toujours à peu près identique, alors que là c'est un temps intérieur, qui ne l'est pas du tout. Donc il a dit, ouais, il faut qu'on aurait peut-être qu'on rajoute à ceci la formule du temps. Ok, d'accord. Et puis, à partir de là, il y a un autre type, beaucoup plus récent. Je crois que c'est un Allemand, vu le nom. Alors, je vais écrire son nom, mais je ne suis pas sûr de l'orthographe. C'est un gars qui s'appelle Riemann. Enfin, qui s'appelait Riemann. Alors, je ne sais pas s'il y a deux N, on ne sait rien, c'est pas grave. Et la théorie riemannienne est basée sur les courbes. Il dit, puisque l'univers est courbe, et que tout est courbe, c'est un peu idiot de croire que tout est parallèle et ça se touche jamais. Donc, la théorie d'Euclide, c'est deux droites parallèles se coupent forcément en deux points. Donc, la définition de deux droites, de deux courbes parallèles, chez Riemann, c'est que ça se coupe en deux points. On commence à avoir un souci là. On n'est plus du tout dans la même logique là. Vous pouvez le comprendre. Oui. Alors, quand on part de ce principe, on se dit, ouais, on a un problème. Alors, les gens disent, ouais, mais bon, la lumière, elle va en ligne droite. Ben, ça dépend. Je prends des petits exemples hein, pour vous dire un petit peu les choses. Si ici, vous avez un soleil, ici, vous avez un autre soleil, et que vous avez des étoiles entre, enfin on va dire des planètes, comme ce sont des objets électromagnétiques qui tournent sur eux-mêmes, ils créent des champs de force. D'accord ? Donc le rayon lumineux, eh ben, au lieu de faire ça pour aller directement là, eh ben, il est attiré par ça, il est courbé, etc. etc. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous regardez le ciel, vous avez l'impression que le rayon lumineux qui vous arrive, il vous arrive direct droit dans l'œil. Non, c'est faux. Il a été complètement tordu par tous les champs gravitationnels de toutes les planètes qui circulent. Allez. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Ça veut dire qu'elle joue avec le magnétisme. Ça veut dire qu'elle est influencée par le magnétisme, c'est-à-dire la gravitation des planètes. Résultat, mon beau monsieur, c'est que quand vous regardez un poisson dans l'eau, vous pensez qu'il est là, mais en fait, il n'est pas là. Il est ailleurs. Donc, tous les rayons lumineux qui vous proviennent du ciel, grosso modo, ne sont pas des droites. Enfin, c'est des droites qu'on subit des transformations. En fait, ce sont des courbes. Et voilà pourquoi, dans la théorie de Einstein, dès qu'on trouvait une planète, il y avait comme un puits dimensionnel, gravitationnel, excusez-moi, qui faisait que les rayons lumineux étaient tout simplement déviés. Alors, on prend quelle géométrie? Celle-là ou celle-là? Bien. Alors maintenant, on va continuer. Parce que il faut quand même comprendre une chose. On va être super logique. Donc là, on a une boule. Ça s'appelle la Terre. Alors, je représente la Terre comme ça. avec l'équateur. Donc ici, pôle nord, pôle sud. Très bien. Alors, moi, je suis un petit escargot sur la Terre. Je dis, voilà, je vais partir du pôle nord. Direction le pôle sud, hein, direct. Alors, de toute façon, quelle que soit la direction que vous prenez, ça sera toujours forcément le pôle sud. Donc, vous dites, je vais tout droit. J'arrive à l'équateur. Donc ici, en termes euclidiens, je pars à un endroit, 0, et je parcours une certaine distance. On s'en fout de la distance. Et j'arrive à l'équateur. Arrivé à l'équateur, je tourne à 90 degrés. C'est-à-dire, je vais suivre l'équateur. Donc, je suis l'équateur d'une certaine distance. Parce que j'ai tourné à 90 degrés. Et comme je suis à l'équateur, je retourne à 90 degrés. Je repars à 90 degrés. Là, ben, je retourne sur le pôle nord. Après là, je suis niqué. Ah, on a un problème là. Donc, vous voyez bien que cette géométrie-là n'a rien à voir avec celle-là. Alors, allons un petit peu plus loin. Si je dis, voilà, je voudrais avoir la surface de ça. Bah, si vous regardez bien, ici, là, vous dites, si je veux la surface entre pôle nord et pôle sud, je vais me trouver avec un triangle. On est bien d'accord. Je fais un triangle. On sait que l'intérieur d'un triangle, c'est 180 degrés à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, 60, 60, 60. Admettons qu'on fasse un triangle isocèle. On dit 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Ok, très bien. Essayez de faire ça et collez-le sur la sphère. Eh bien, ici, ça va gondoler dur hein, sur votre sphère. Hein. Il va y avoir un problème. Hein. Parce que si vous prenez une sphère et que vous découpez cette partie de ballon, en fait, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça. D'après vous, là, ça fait 60 degrés, ça fait là ? Bah, c'est nada. Hein. Non, mais je prends des choses simples, hein. Évidentes. Donc, on voit bien que toute la géométrie qu'on a appris selon le XYZ euclidien, d'un plan qui est plat, dès qu'on passe en géométrie, ne serait-ce qu'au niveau des sphères, des courbes, ben on est complètement planté. On est absolument planté. Alors maintenant, on se dit, ouais, tiens, on voudrait faire la représentation de la Terre. Alors, ben, vous avez plein de représentations. Alors, vous en avez en espèce d'étoile comme ça, parce que forcément, il faut que ça colle. Bien. Alors, j'y vais un peu plus loin dans la musique. Il y en a qui sont en train de nous dire avec la Terre plate, bon admettons que ça c'est l'équateur, que tout ça on le met là, et puis que c'est plat, et puis que bon on aurait l'hémisphère nord, enfin voilà, et puis que tous ceux-là qui sont au sud, ils sont barrés très loin. Bon, je comprends, il n'y a pas de problème. Alors ils nous parlent sur un truc, ils disent voilà, si je suis en Afrique du Sud, et que je vais aller en Amérique du Sud. Pourquoi l'avion, il ne fait pas ça directement? Au lieu, et ce qu'on voit, en fait, il fait ça, il revient, il fait ça. Il dit, mais c'est pas logique, parce que ça, ça fait beaucoup de kilomètres. On est d'accord? Ça fait beaucoup de kilomètres. Mais reprenez maintenant dans ce sens-là. Regardez par rapport au triangle ici. Alors moi, je dis, voilà, je parle d'un truc très simple, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans le Pacifique récemment. Alors, je pose la question. On va à Tahiti, qui se retrouve donc de l'autre côté de l'équateur, admettons que l'équateur soit là. Tahiti, il est là. Il y a l'île de Pâques qui est à peu près là. D'accord. Donc, très bien. Alors on me dit maintenant, faut aller à Tahiti. Alors très bien, on part de France, admettons que ça c'était l'Afrique, donc l'Europe est par là, on se fait la France, on va direction les États-Unis,
à quelque chose près, hein. Et puis de Los Angeles, on se barre à Tahiti. Bon, ok, là on repasse par le centre, très bien. Et après j'ai dit, moi j'aimerais bien aller à l'île de Pâques.
Ah, l'île de Pâques.
Ben, on n'est pas revenu là, hein. On a fait ça quand même. Bon, déjà. Puis j'ai dit, oui, mais moi je voudrais aller aussi au Pérou, à Lima. Alors à Lima, c'est là. Alors pourquoi qu'on n'en peut pas avoir un île de Pâques Lima? Parce que pour la simple bonne raison, il faut passer par Santiago pour revenir à Lima. Et pourquoi il faut redescendre plus bas pour revenir plus haut? Bah, ça veut simplement dire que ici, l'île de Pâques, ça appartient au Chili. Que la capitale du Chili, le Chili est sur toute la longueur, elle est là, puis elle n'est pas ailleurs. Et que la compagnie nationale, qui a tous les droits, elle est le seul, c'est le seul, la compagnie nationale chilienne est la seule à pouvoir atterrir à l'île de Pâques. Donc, quel est son aéroport principal? Santiago du Chili. Résultat concret, mon coco, eh ben, tu peux te prendre théorie plate ou théorie de la Terre ronde, ça ne change rien. Si tu as l'île de Pâques, tu iras à Santiago de toute façon. Parce qu'il n'y a aucun vol direct entre l'île de Pâques et Lima. Pourtant, Lima, c'est vachement plus près. Hein. C'est direct. Alors que l'autre, il faut... Oui, oui, et on... Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ouais, c'est commercial. Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas un vol qui va de là à là, il faut poser la question, il y a combien de pèlerins qui habitent ici qui ont envie d'aller là? Je crois que ça serait quand même une question à poser. C'est un exemple. Après, on me dit, oui, mais alors ici, on est sur le bord, et puis ici, c'est des icebergs partout. Bon, très bien, moi je veux bien. Mais alors, dites-moi, là, dans l'Antarctique, quand il y a un iceberg qui est en train de se barrer, c'est quel morceau qui est en train de se barrer? Parce que le morceau qui doit se barrer là, il doit aussi se barrer là en même temps, puisque théoriquement, d'après la Terre ronde, ils sont ensemble. Donc dites-moi, quand on écarte la truc, de quel glacier on parle? Non, mais c'est un exemple que je donne. Après, vous pouvez donner tous les arguments que vous voulez, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, on voit bien que dans les argumentations qui sont avancées par les théoriciens de la Terre plate, en fait, en vérité, il y a quand même certains paramètres qui ont été mis de côté largement. Parce que, sincèrement, aller au bout de l'Amérique du Sud, quand vous habitez le bout de l'Afrique du Sud, il ne doit pas y avoir quand même des millions de gens qui ont envie de prendre l'avion, là. Et je vais vous dire une chose, ça coûtait presque moins cher et aller plus vite de partir de Tahiti, c'est quand même dingue, hein, de partir de Tahiti, de remonter à Los Angeles pour aller à Lima. Ça coûte moins cher que de faire ça. C'est quand même dingue ça. Donc on voit bien que on peut prendre des aspects géométriques des choses. Mais en vérité, ça ne joue pas comme ça. Ensuite, on part sur un autre principe. On dit la Terre est ronde. Formidable. Mais on sait tous qu'il y a des grilles sur cette planète. Alors ce qu'il y a de marrant, mais c'est pour ça que je rigole, hein, parce que bon, après chacun va s'en prendre dans les dents plus ou moins, on présente souvent cette grille avec des triangles. Alors, on fait la France et puis on fait des grands triangles, on dit ouais, ça passe par Chartres, puis ça passe par là, puis ça passe par là, il y a des nœuds machin truc. Bon, ok, d'accord, très bien. Alors déjà, on sait qu'un triangle sur un plan qui est plat, c'est pas le même triangle quand c'est rond. On a déjà un souci là. Donc, si on s'amuse à découper ici, à dire voilà, je fais un truc avec des triangles, vous savez, bon, enfin, je fais des triangles, etc. Il est évident que si c'est des triangles, qu'est-ce qui vous dit que c'est rond ? Ça, ça peut être plat. Puis ça, ça peut être plat. Puis ça, ça peut être plat. C'est juste des trucs qui sont posés et qui vont entourer le cercle, la sphère. Quand vous regardez une boule de boîte de nuit, vous savez, qui reflète les trucs, c'est que des morceaux des miroirs qui sont collés les uns sur les autres sur une sphère. Alors, où vous en êtes sur la trajectoire des rayons lumineux quand vous êtes sur un réseau comme ça? Alors, la lumière sur Terre, Est-ce qu'elle se déplace comme ça? Ou elle se déplace en ligne droite? Parce que si on prend ce truc-là, bah moi je te mets une tour ici, je te mets une tour ici, je te dis putain, il y a tant de kilomètres, alors que théoriquement, d'après les trucs là, eh bien, il devrait y avoir une dénivellation due à la rotondité de la Terre. Bah il n'y a pas. Bah oui. Est-ce que tu as pris en compte que... Bah non. Ah. Donc on voit que dans les arguments qui sont posés par les personnes qui disent voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, en fait, quelque part, il y a des paramètres qu'ils n'ont pas pris en compte. Ils n'ont vu qu'en fonction de leur lorgnette. Or, dans la vidéo précédente, ce que je vous ai raconté, c'est qu'en fait, les deux sont valables. Et les deux sont simultanés. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un axe, on va dire, on a dit ici, c'est du magnétisme. Magnétisme, ça veut dire que grosso modo, ici, toutes les courbes jouent en fonction d'un magnétisme. Alors qu'est-ce qu'on sait d'une planète, d'un soleil, de n'importe quoi? Qu'il y a une gravitation. Je vous rappelle hein, les choses, je sais que c'est vachement conne, mais bon, je vais aller un petit peu plus loin si vous voulez. On dit X. D'accord? Donc c'est un féminin, c'est le plan magnétique. Après, on dit qu'il y a un Y. Donc généralement, c'est le plan électrique. D'accord? Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Le Z, c'est quoi? Je vous l'ai dit, ça. C'est la gravitation. Donc la gravitation est un champ magnétique. C'est un champ d'amour. Ah. Le magnétisme attire. On a toujours dit en philosophie, grosso modo, que le féminin était d'abord là et ensuite apparaît le masculin. Il y a un ordre des choses. Donc le magnétisme est là d'abord et ensuite on a le droit du masculin, à des droites. Donc la difficulté, c'est que on a le magnétisme, donc ici c'est l'aspect électrique. Bon, je vais aller un petit peu plus loin si tu voulais. Hein. Je veux dire, vous n'êtes vraiment pas forcé de regarder cette vidéo. Hein. Si vous dites j'ai mal à la tête, j'ai rien compris, bon, vous arrêtez, vous passez à autre chose, hein. Je ne répondrai pas aux commentaires. Parce que forcément, dans la vulgarisation, on ne peut pas être nickel, précis, prendre tous les trucs en compte et tout, etc. Sinon, on ne s'en sort pas. D'accord, hein. Donc, je vous donne des grandes lignes comme ça. Mais comprenez une chose, c'est que derrière la science qu'on vous a inculquée à l'école, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Parce qu'on les a considérées comme étant, en fait, une vérité. Je vais vous dire... Bon, je vais continuer sur le truc, mais je vais vous dire une chose quand même. Il faudrait que j'efface un peu une partie du tableau quand même, parce que là, ça va devenir un peu gribouillé. Quand je dessine un carré, c'est le cas particulier, des cas particuliers, des cas particuliers, des cas particuliers. Mais ben non, c'est un carré. Ah non. Il a des caractéristiques que vous n'imaginez pas. Parce que si on se dit ça, c'est un carré, et que derrière, on appelle ça le cube métatronique, et que c'est en fait la structure de toute la création, enfin au moins nous concernant, c'est que quand même, quelque part, c'est quand même très pointu cette affaire. D'accord. Bon, voilà, on va y aller gentiment. On va dire, il y a un carré ici avec un côté A et puis un côté B. Alors, déjà, sa particularité, c'est que A égale B. Parce que si je fais un truc où que A il n'est pas égal à B, j'ai un rectangle. D'accord? Donc le carré, c'est un cas particulier. Mais d'un autre cas particulier. Parce que ici, on sait que chaque côté sont parallèles. 2 et 2. C'est-à-dire que A est parallèle à A', on va dire, et B à B'. Alors, c'est quand même un cas particulier. Parce que je pourrais avoir ceci. A parallèle avec B qui ne l'est pas. Oui. D'accord. Mais avant de faire ce cas-là, en fait, je peux faire celui-là. C'est-à-dire qu'ils sont parallèles 2 à 2, mais ils ne sont pas 90 degrés. Ah merde, on appelle ça un parallélogramme. Ah merde.
Voilà. Alors, c'est un parallélogramme. Hein, parallélogramme.
Merde, donc ça, on est dans les parallélogrammes. Donc le rectangle est un parallélogramme ayant le cas particulier que l'angle alpha égale 90 degrés. Ce qui n'est pas le cas ici. D'accord ? Mais celui-là, il est quand même particulier parce qu'ils sont parallèles 2 à 2. Donc je peux en faire ici ce qu'on appelle un quadrilatère, c'est-à-dire un quadrilatère ayant par exemple petit a parallèle à petit a prime, mais pas le b. D'accord ? Mais ça, c'est aussi encore un cas particulier. Parce que ici, j'ai a parallèle à a prime. D'accord ? Et là, on va dire A parallèle à A' et B parallèle à B'. Donc, on retrouve toutes les qualités là. Donc, on se dit, c'est pas mal. Mais, c'est aussi encore un cas particulier. Parce que je peux faire A qui n'est pas parallèle à A' de B qui n'est pas parallèle à B'. Bon, c'est juste pour vous montrer que ce que vous prenez de base en disant, oui, ben, un carré... un rectangle, machin, les trucs. Ben, ce sont des cas particuliers parmi des cas particuliers parmi des cas particuliers. Donc, le propre de la physique, pour tous les cancres qu'il y a à l'école de l'éducation nationale, au moins au niveau primaire, c'est de donner des cas particuliers. Mais on ne vous explique pas que, en fait, il faudrait partir de là. Alors, imaginez que là, on dit c'est sympa. Mais on est en théorie euclidienne, c'est-à-dire dans un plan. Mais si le plan, il est courbe, on fait quoi, là ? Comprenez le truc ? Donc, quelque part, quand il y a des paradoxes, quand il y a des trucs que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est parce qu'il y a une mixture entre ces deux trucs-là, et vous ne raisonnez qu'avec une forme de règle précise, mais qui est qu'une particularité. Si en physique, on est coincé avec les électrons qui se déplacent, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ils sont en orbite et pourquoi ils y restent. Hein, bah ouais, d'accord, mais n'empêche que y a ça qui aussi qui se passe. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai donné des petits trucs comme ça, là, qui paraissent très simples, mais on va aller un tout petit peu plus loin, là. Mais là, il faut que j'efface le tableau, parce que, quelque part, j'ai pas cette place. D'accord ? Donc là, vous inquiétez pas, le plombier, il vous donne un petit cours, là, mais c'est pas un prof de maths, hein, parce que ça, les maths et moi, on était très fâchés, hein, très, 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 très fâchés, parce qu'il y a une chose dans les maths. Les maths, c'est l'aspect masculin des choses. C'est-à-dire, vous mettez dans les petites boîtes avec des formules, parce que vous dites, si je fais cette formule-là, ça décrit tel phénomène. On est d'accord. Donc, c'est de la géométrie, les maths. Et je peux vous dire que généralement, quand quelqu'un est un matheux, il y a un truc qui lui manque. Ça s'appelle l'intuition. Parce que dès qu'il a un iota d'intuition, on appelle ça un génie. Un génie, c'est quelqu'un qui simplement peut percevoir un truc et qui se dit, putain, c'est pas comme c'est écrit là. Donc, il faut que j'arrive à trouver pourquoi il y a une différence entre ce que j'ai perçu et ce qu'on me dit. Alors, il cherche. Et puis, il amène des nouveaux trucs et on se dit, putain, c'est génial. Il a réussi à modéliser quelque chose. Il a réussi à mettre un truc sous forme géométrique. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est que ça fait quand même longtemps que je suis sorti de l'école, hein, et que non, c'est pas la quantité d'alcool que j'ai bu en cette période qui a fait que j'ai oublié, mais qui fait que, en fait, généralement, on a quand même quelques pertes de mémoire. Donc ça veut dire clairement que les humbles diplômes que j'ai pu avoir dans ma vie, si aujourd'hui on me demandait de les repenser, je les aurais pas. Déjà un, ça c'est sûr, hein, et je pourrais même déjà commencer par une chose très simple qui s'appelle la permis de conduire. Je suis même pas sûr que j'aurai le code. Bon, la conduite, je pense que ça sera plus facile que la première fois, évidemment. Mais alors, le code aujourd'hui, repasser le permis, pouf. Ouais, ça fait au moins 30 ans, je ne me suis pas mis à jour, attends, 40. C'est, oui, parce que je l'ai eu avant 20 ans, hein, mon permis. Donc ça fait 40 balais, je ne me suis pas remis à jour concernant le code de la route. Hein. Vous voyez, je suis un mec dangereux quand même. Hein. Je suis un mec vraiment, 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 vraiment dangereux. Alors, la dernière fois, j'ai abordé un truc qui est, on va dire, simple, qui était la dimension. Je vous avais dit, vous voyez, faites une courbe, ça, et puis, hop, et puis si ça plafonne entre moins l'infini et plus l'infini, c'est que vous êtes coincé dans une dimension. Évidemment. Bah alors, tout le monde parle de dimension sans vraiment saisir la chose. Alors, pour les gens qui adorent le quantique, un quanta égale à un changement de dimension. Alors, si vous regardez un atome, qu'est-ce que vous regardez? Avec différentes couches. Eh bien, vous regardez, en fait, différentes dimensions. Oui, mais attends, Laurent, tu nous expliques, là, il y a la 1D, il y a la 2D, le truc. Oui, mais mon coco, là, moi, je t'ai dit, ça monte jusqu'à 24 par rapport à la galaxie. Mais en vérité, tout dépend comment tu regardes. Ça, c'est une mesure. Et en fait, on va dire, il y a 24 octaves, pour être plus précis. Mais chaque note en elle-même, c'est une dimension. Donc, si tu prends un octave, on va dire, je prends la 1D, première octave, 1D, eh ben, on a 7 notes. Hein. On a 7 notes. Donc 7 sous-dimensions. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Tout ça, c'est des dimensions. Parce que s'il n'y avait pas un, comment dire, alors, si j'agrandis un petit peu, là, je vais agrandir. Ici, voilà, je prends le Do. Je vais agrandir le truc. Voilà. Ce qui veut dire que ma courbe, elle va faire quoi? Elle va partir comme ça, elle va faire ça et elle va faire ça. J'ai dit, voilà, j'ai un Do. Ok, très bien. Parce que si elle venait à passer dans la gamme au-dessus, c'est-à-dire dans l'autre dimension qu'il y a au-dessus, ben ça ne sera pas un Do, ça sera un Ré. Là, ça sera un Ré. Mi, Fa, Sol, La. Donc on peut dire que déjà chaque note est une dimension en elle-même. Parce que pourquoi on dirait que celle-là elle est rouge, puis que celle-là elle est orange? Et puis ben, ça veut dire que c'est bien une fréquence différente et que c'est bien une dimension différente. Franchement, vous ne voyez pas que ça. En fait, c'est la vérité. Alors, si vous dites, voilà, dis Laurent, tu nous dis qu'il y a, bon, mettons, N chakra. Voilà, bon, alors on a dit, on a un chakra. Oui, d'accord, mais tu as tant de notes. Ah, ça veut dire que dans le même chakra, c'est-à-dire dans le même octave, tu vas jouer sur 7 dimensions différentes. Donc tu en as 7 là. Alors si tu dis des 12 chakras, 12 fois 7, ça fait combien? Là, on n'est pas à 24 dimensions là. Donc c'est pour ça que quand les gens ils disent, ouais, mais moi, je suis dans la 144e dimension, c'est pas mal, ou dans la 77e, c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'ils prennent 12 dimensions par octave. 12 fois 12. D'accord? Il y en a qui parlent en millimètres, il y en a qui parlent en centimètres, il y en a qui parlent en mètres. Hein. Mais c'est toujours des dimensions. Alors maintenant, voyons un tout petit peu plus loin la différence entre la courbe, c'est-à-dire, on va dire, Riemann et Euclide. Parce que bien sûr, qui dit Riemann dit du linéaire, pas Riemann, qui dit Euclide, dit du linéaire, une droite parallèle à 1 cm, à 1 cm, et puis ben, et tu fais une grille. Donc, globalement, quand tu prends la version linéaire d'Euclide, quand tu fais une grille logique en X, et puis tu fais une grille logique en Y. Donc généralement, tu essaies de prendre les mêmes trucs. Donc, tu vas arriver à une grille. Là. Ouais. Mais ça, c'est Euclide. Ah. Vas-y, maintenant, cette grille-là, là. Si on la mettait dans la version euclidienne, pas euclidienne, riemannienne. Si on la mettait dans la version, en fait, féminine. Ah. C'est-à-dire pas linéaire. Putain, comment on va la représenter celle-là? Waouh, 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 on a un problème. Bah mon frère, on en a pas. Parce qu'il y a une chose, c'est que tout est unité. Donc ici, vous savez bien que quand on dit X, on dit du féminin. Quand on dit Y, on dit du masculin. Quand vous les multipliez ensemble, X fois Y égale 1. Ça s'appelle l'unité. Donc il y a forcément un rapport avec tout ça. De dire, ben oui, mais si maintenant je passe le X en dessous, Y égale 1 sur X, ou X égale 1 sur Y. C'est-à-dire l'un est l'inverse de l'autre. Oh, oh là. Bon. Ah ben oui, électromagnétisme. On a le droit à deux forces différentes, mais qui, mises ensemble, font un. Alors, une chose qui est très simple. On est des grands garçons quand même, alors on s'est dit, on va regarder quand même au niveau de la nature comment ça marche. Alors ici, je vais faire le gros axe ici. Là, je mets 0. Ici, j'ai mon axe des Y, hein, que je fais en gros, voilà. Alors ici, je vais mettre plus l'infini, puis là, moins l'infini. Puis là, plus l'infini, moins l'infini. Donc voilà, j'ai fait mon quadrillage linéaire, tout. Et je mesure les choses qui se passent dans la nature. Je vais mesurer la force, un truc qui se passe dans la nature. Alors je me rends compte que déjà, si je veux qu'il y ait un X, il faut qu'il y ait un Y positif. Parce que s'il peut pas, ça ne peut pas exister qu'il y ait quelque chose en négatif alors que l'autre est positif. Le résultat, on trouve une courbe. Et cette courbe a fait ça. Alors, l'avantage de cette courbe, c'est que quand on passe ici, à ce point-là, le x égale à 0. Alors, je vous présente la courbe. C'est une courbe qui fait ça. Et cette courbe, on lui a donné un nom. Parce qu'à chaque fois qu'on mesure des phénomènes physiques, on la retrouve. On n'a pas le choix. On la retrouve. On appelle ça la courbe logarithmique. On se dit, alors, quand je prends l'aspect masculin et que je mesure un phénomène physique, c'est-à-dire son aspect généralement féminin, je me retrouve avec un log. Alors, le problème, c'est que le log, il va de moins l'infini à plus l'infini. Alors on est un peu gêné. On est vraiment, vraiment, vraiment embêté. Et puis, on a découvert que bah, cette courbe avait un équivalent. C'est-à-dire que ici, si je dis y égale 1, parce que une fois 1, si x égale 1 et y égale 1, une fois 1 fois 1 égale 1. Donc on a découvert que ici, celle qui est à 45 degrés, là ici par exemple, c'est en fait une courbe de symétrie par rapport à une autre courbe, ici, qui part, elle, de moins l'infini, et qui passe à 0 en Y, et qui se barre comme ça. La même. Et c'est comment on l'a appelé, celle-là? Une exponentielle. Alors, quand vous parlez en logarithme, ça veut dire quoi? Et quand vous parlez en exponentielle, ça veut dire quoi? Ben, ça dépend ce que vous voulez mesurer. Parce que si vous voulez regarder quelque chose en X, ben vous allez voir que vous allez trouver une courbe logarithmique. Mais si vous voulez une valeur en Y, c'est-à-dire, rappelez-vous, ça c'est féminin, donc ça va être plutôt l'aspect magnétisme des choses. L'attraction, la force, les trucs qui font que. Alors que là, vous mesurez un Y. Et un Y, eh ben vous parlez en exponentielle. Ah, ils ne vous ont pas dit ça à l'éducation nationale. D'accord? Donc ici, on mesure du Y, là, on mesure du X. Très bien. Alors, maintenant on se dit, puisqu'on est dans une géométrie euclidienne, et qu'on se balade avec moins l'infini et plus l'infini dans les deux cas, on est vachement emmerdé. Parce que gérer l'infini, ben les mathématiques, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Parce qu'il y a un truc qu'un ordinateur n'arrivera jamais à résoudre. Un truc, hein. Imaginez, vous dites y égale 1 sur x. Hein, si je reprends la formule. Donc y égale 1 sur x. D'accord ? Maintenant, mettez x égale l'infini. Ben, je peux vous dire que l'ordinateur, il va dire erreur, erreur, erreur. Hein, il ne trouvera jamais, il ne pourra jamais. Parce que c'est impossible de diviser par l'infini. Il faut que ça soit forcément fini. Ben, vous voyez, on a un petit problème. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on se dit, si cet aspect magnétique, il est visible sous une forme de courbe dans une grille linéaire, si je prends un papier logarithmique où vous avez en fait, vous vous rendez compte que ici la progression n'est pas du tout la même, elle n'est pas du tout linéaire, eh bien ce qui est sous une forme de courbe ici dans une grille, on va dire euclidienne, eh bien sera en fait une droite, sera représentée par une droite grâce au papier logarithmique. Ça veut dire quoi? Ici, je prends l'aspect masculin comme base référence et je mesure un féminin. Ici, je prends la base en féminin et je vais mesurer du masculin. Donc, n'importe quel scientifique qui joue avec la matière ou qui veut, entre guillemets, comprendre ce qui se passe au niveau de la matière, eh ben, il joue avec ça et il joue avec ça. Mais généralement, il va jouer surtout avec ça. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir un aspect linéaire dans un truc qui ne l'est absolument pas. Et c'est là que vous arrivez à dégager. Donc ici, maintenant, si je reprends par rapport à mes univers ici, ici, je vois une courbe qui va de moins l'infini à plus l'infini, qui est une dimension. D'accord ? Eh bien, ma dimension, je la trouve là. Donc, en fait, un papier logarithmique représente une version multidimensionnelle. Ouais. Expliquez simplement par le plombier. Hein ? Donc, ce qui permet de voir une droite ici, c'est que vous rendez compte qu'en fait, ici, vous allez mesurer, je prends des exemples, un phénomène électrique qui est constant pour toutes les dimensions. Et vous arrivez à voir que c'est une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne varie pas, alors que les dimensions varient. Ah, je peux vous dire que papier logarithmique, on l'utilise beaucoup, hein, dès qu'on touche à la physique, enfin la physique de près, ben, on ne connaît que ça, parce que sinon, si tu as ça, tu t'en sors pas, parce que ici, vous savez que l'exponentielle, la seule fois que tu avances de 1, ça monte de 2. Bah, rapidement, tu touches le plafond, le bord de la feuille. Hein. Donc tu peux pas t'en sortir. Ok ? Donc, pour revenir à la Terre plate, et à la Terre ronde, bah, tout dépend comment vous regardez. Avec quelle échelle vous jouez ? Vous ne verrez pas la même chose. Puisque tout rayon est d'abord un truc électromagnétique. C'est-à-dire qu'il joue sur les deux tableaux à la fois. Donc maintenant, hein, alors à dire, la Terre est ronde, ouais, et pourquoi tu as les globes oculaires qui sont ronds aussi? Parce qu'ils auraient pu être carrés. Hein. Ben oui. Pourquoi toutes les lentilles des objectifs, c'est des courbes? Ben, s'il y a une raison. Maintenant, voyons pourquoi les cartes sont fausses. Un problème est d'une simplicité extrême, mais qui, bien sûr, n'est pas compris forcément par tout le monde. Bien. Alors, imaginons que la Terre, enfin, un morceau de Terre plat. Ah, on prend une base plate. Puis on se dit, le problème, c'est que c'est pas la Belgique. Hein. C'est pas le pays plat, ou le plat pays. C'est qu'il y a des montagnes. Alors, il y a le bord de mer,
Et puis de temps en temps, peut y avoir des montagnes.
Bon. Alors maintenant, moi, je suis combat et discipliné, je suis un satellite. Je m'appelle Google Earth.
Je suis un satellite. Et que je regarde ce qui se passe ici. Je regarde ce qui se passe ici. Donc forcément, je vais voir avec une verticalité.
Ce qui est très masculin. D'accord ? Je vois avec une verticalité, parce que même si je tourne, parce que bon,
soyons concrets, si la planète fait ça et que le satellite y fait ça, globalement, il est toujours perpendiculaire à la Terre.
Bon. Hein ? Donc on est bien vertical là. Hein ? Donc on ne va même pas prendre la courbure de la Terre. On va juste garder, on dit là, c'est plat. Enfin, on prend une base plate. Mais ici, voilà, c'est comme ça. Alors ici, il y a le maire de la commune qui dit, voilà, je vais taxer les petits restaurants du coin, là, ici, les petits restaurants qu'il a, je vais les taxer en fonction de la surface du sable, la longueur de la plage. Admettons. Donc, il se met à la verticale, pof, pof, et puis sur le plan, parce que sur un plan papier, il faut bien que comme vous étiez à la verticale. Donc, prenez la plage, vous mesurez, vous dites, ça fait tant. Hein. Donc, vous avez un hectare de plage, ça vous coûte taxe, tant en temps de taxes, etc. Bon. Maintenant,
mettez-vous ici, là. Par exemple. Sur le plan, vous allez trouver que le champ, il fait un carré comme ça. Mais dans la vérité, si vous allez sur le terrain et vous mesurez, lui, là, sur votre plan, il représente cette largeur-là. Et vous, quand vous allez sur le terrain, vous allez mesurer quoi? Vous allez mesurer ça.
On a un problème. Parce que si le champ ici, admettons qu'il fasse 1 km sur 1 km ici, dans la réalité, ça ne veut pas dire qu'il fasse 1 km. En fait, dans la réalité, si on devait le mettre à plat, admettons, donc ici, on aurait un champ qui ferait... Admettons, hein, puisque là, on considère que la montagne est toute droite comme une falaise, hein, sur 1 km. Hein. Parce qu'en vérité, si elle fait d'autres choses, là, on commence à plier, hein, on commence à plier les trucs et on ne comprend plus vraiment ce qui se passe. En vérité, si on regardait la surface du terrain, eh bien, vous auriez une longueur ici qui serait, on va dire, beaucoup plus grande, mais selon le format du truc, en fait, vous auriez une carte comme ça en termes de mètres carrés. Alors, vous n'avez pas de peau, vous habitez dans les coins vallonnés où il y a trois machins trucs, etc. Dites-moi la véracité du plan que vous avez. Alors ouais, vous prenez une carte IGN, on vous dit sur la carte IGN, attention, on vous fait les courbes de relief, voilà, voilà. Ici, ça veut dire que c'est plus haut que là. D'accord, très bien. Hein. Mais quand tu vas cavaler mon coco là, hein, avec tes 50 kilos dans le sac à dos, tu vas comprendre la différence. Parce qu'ici, tu vas dire, ah, il y a tant, mais quand tu vas grimper, tu vas sentir que c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Comprenez ? Même les cartes que vous avez, cartes de France, tout ça, c'est une représentation symbolique. Parce que dès qu'il y a une montée, une descente, vous êtes foutus. C'est pas la vérité. Alors, la Terre est plate ou elle est ronde ? Donc on voit bien que toute forme de représentation de la planète, quelle qu'elle soit, même au niveau micro ou macro, est une approximation. Vous n'aurez jamais une seule carte qui sera vraie. Alors, vous savez, quand il y a les grands débats, hein, pour dire, ouais, c'est lui, c'est l'autre, tout dépend. Alors, je vais en profiter, puisque je suis dans la lancée, puis que ça fait pas longtemps que je parle. On va parler d'autre chose, puisque on dit tout est vibration, tout est fréquence. Alors maintenant, ça veut dire quoi, ça? On va parler un peu physique, hein, que vous compreniez un petit peu, à ce niveau-là. Donc, je l'efface. Bon, j'espère que vous avez compris que... Ça, c'est une représentation masculine, ça, c'est une représentation féminine. D'accord ? Mais on en a besoin d'une pour mesurer l'autre. Donc, quand on met du linéaire, on a de la courbe, et quand on met une, on va dire, une graduation qui correspond plus à une courbe, eh bien, on aura du linéaire. Bien.
Je suis sûr que vous allez regarder la géométrie différemment aujourd'hui. Alors, petit exercice pour l'effort en visualisation créatrice 3D. C'est juste des exercices comme ça. Hein. Je suis pas là pour remplacer Einstein hein, du tout. Hein. C'est juste de la plasticité neuronale pour vous montrer que ce que vous avez dans le crâne, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. Et que si vous voyez des paradoxes quelque part à vous dire oui, ça joue pas, ça colle pas, c'est que globalement, alors je vous en cite une, par exemple, là, qui me vient, là, c'est vraiment le truc dingue. Alors j'ai regardé des gars super intelligents, très clairs, mais alors moi j'y arriverai jamais à ce niveau-là, enfin, ça c'est clair, qui vous décrivent la physique d'une manière, ils savent tous sur le bout des doigts les gars, super. Alors bien sûr, forcément, je regarde quand même, j'essaye de m'instruire, hein, parce que quand même, des fois je pars de loin. Hein. Alors voilà les principes de la physique quantique, par exemple. Alors, le gars, il dit, ouais, la physique quantique, ça ne s'applique qu'à l'infiniment petit, parce qu'au niveau de l'infiniment grand, non, ça ne peut pas marcher. Hein. C'est pas la même mécanique. Hein. Ça ne joue pas pareil. Hein. Voilà. Alors, pourtant, on dit, putain, le système solaire, ça ressemble foutrement quand même à un atome. Hein. Ah, non, mais ça ne marche pas pareil. Hein. Alors, il dit, voilà, quand il y a un électron qui tourne autour du noyau, de l'atome, il va tellement vite qu'en fait, on ne sait pas où il est. En fait, on n'a aucune idée. Parce que si on arrive à dire il est là, bah en fait, tout le reste disparaît. Donc en fait, on ne sait pas où il est. Alors on va parler de nuages électroniques. On va dire, allez, ces probabilités sont plus grandes ici que là. C'est ce qu'on a vu. Alors on va parler de nuages électroniques hein, et de probabilités de présence. Bon, très bien. Super. Alors le gars dit, ça ne marche que dans l'infiniment petit. Alors, bien sûr, il a pris toutes ses précautions, il dit non, essayez pas de prendre la Lune à ce niveau-là, parce que non, ça marche pas. Hein. Allez, bah, ça se voit que le coco, il a pris sa leçon 3D, parce qu'en fait, la leçon 4D est très simple. Hein. Tu regardes le mouvement de la Lune sur 1 milliard d'années. Et je te dis, sur ton échelle de 1 milliard d'années que tu as mis sur la largeur de ta page A4, j'ai dit maintenant, dis-moi où est la Lune. On ne pourra jamais dire. Parce qu'elle est presque à une vitesse infinie. Par rapport à si tu es capable de regarder 1 milliard d'années direct comme ça, à la vitesse où elle tourne, tu vois que dalle. Mais tu pourras déterminer quand même une probabilité de où elle va se trouver. Bon. C'est-à-dire que le pauvre gars, il n'avait pas compris c'était quoi les dimensions. Que par rapport à notre dimension, la Lune ou les planètes qui sont autour du Soleil vont vachement lentement. Ah, s'ils se mettaient à l'étape au-dessus, hein, bah, il verrait que ça va vachement vite. Hein. Donc on voit très bien que derrière ce que des gars ont appris par cœur et qu'ils ont fait des études et des recherches et qu'ils sont super bien balèzes, qu'il manque un brin de recul. Hein. Faudrait qu'ils lisent un petit peu plus les versions du plombier. Ah oui. Ils n'arrivent pas à capter que, en fait, ce qu'ils disent, ça ne s'applique pas à ça. Ce qu'on appelle la mécanique quantique est tout simplement une mathématique, on va dire, de l'infini. Une mathématique dimensionnelle. Donc, dès que tu changes de dimension, tu vas te retrouver avec cette mathématique. C'est tout. Où est le problème? Alors, oui. Ah, allons-y gentiment. Ouais, j'aime bien, hein, parce que il y a des trucs... Il y a des trucs que généralement... Enfin, je veux dire, il n'y a que maintenant que je les ai compris. Hein, pourtant... Alors... on m'a bassiné à une époque en me disant non, c'est une constante, ça. Une constante, enfin c'est le truc. Constante, ça veut dire c'est constant. Ça veut dire ça ne bouge pas. C'est toujours pareil. Bon, constante. Alors forcément, il y a l'opposé de la constante. Ça s'appelle une variable. Et une variable, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose qui varie. Alors, on peut dire que de ce côté-là, le principe masculin, c'est une constante. Et que le côté féminin, c'est une variable. Donc, si vous connaissez les constantes de ce qui fabrique un mâle, vous arriverez à peu près à le cerner. Bon, alors, si vous voulez connaître et découvrir la variable du féminin, alors là, on a des soucis.
Non, mais c'est pour vous dire que la physique, elle est basique. On utilise dans la mathématique des termes qu'on peut appliquer à tous les jours, en fonction de toutes les relations qu'on a. Il y en a une qui rigole derrière, parce que je crois qu'elle n'avait pas vu la vie comme ça. Donc, grosso modo, on se dit, oui, mais c'est fonction de... Ah oui, parce qu'il faisait une fonction, vous savez, f. F de x. Alors, c'est ça que j'adore. Parce que c'est f de x, ou f de y, etc., etc., ou f de z, etc. Fonction de... Ah, et non, j'ai pas toujours arrivé, quand j'ai fait mes études de physique, pourtant, à comprendre ce que ça voulait dire, ce mot fonction. Alors, ce fonction ne s'applique qu'à une variable. La fonction de x égale tatatitata, ça veut dire que x est variable. Parce que si c'est une constante, ben, c'est une constante. Donc, c'est pas une fonction. Donc, on voit pourquoi le féminin est difficile à cerner. Parce qu'il y a beaucoup de fonctions du x, et c'est vrai que ça y fait beaucoup. Hein. Alors bon, je vais faire un gros trait d'amour. Quand on dit x en version sexe, je peux vous dire que c'est une grosse variable et qui fabrique, on va dire, la vie d'un individu d'une certaine manière. Si déjà cette variable-là n'est pas cernée correctement, on ne sait pas où on va là, hein, franchement. Bon, enfin, pour déconner, mais c'est sans déconner. Alors, donc, une fonction ne peut exister que s'il y a une variable. Bien. Alors maintenant, parce qu'on ne peut pas avoir une fonction d'une constante. C'est à rien. Alors, voyons un truc très simple de ce qu'on appelle la tridimensionnalité, qu'on va regarder en fait en termes, on va dire linéaires dans un premier temps, et d'une variable ensuite. Alors je prends une fonction x. Je dis, c'est un sinus. Ma fonction x joue comme un sinus. Une vibration, vous êtes d'accord? Et si je la mets dans l'espace, je considère que j'ai une taule ondulée. Vous savez les taux ondulés? Pourquoi? Parce que mon y, ici, mon x est une variable, mais mon y, c'est une constante. Donc, j'ai une taule ondulée. Non, mais ça fait très théorique, hein, ça. Mais je peux vous dire, hein, si vous allez à un magasin de bricolage et je voudrais avoir une variante de x, mais avec une constante y égale à 0, ou un dixième de millimètre, l'autre, il va franchement pas comprendre que vous lui commandez une taule ondulée. Mais bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on s'est dit, voilà, x, il est variable, y est constant. Maintenant, prenons le cas de x est toujours variable, mais que y est aussi variable. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de y. Plus précis, si on veut. Donc ici, c'est fonction de x, hein, donc f de x, alors que là, y est une constante. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai, dans cet espace, toujours mon ondulation, en x, mais que cette fois-ci, j'ai aussi une ondulation en y. Spatialement, ça vous donne quoi? C'est simple. Lui, quand il est haut, à cet endroit-là, l'autre va varier aussi comme ça. Donc ça veut dire que ici, ça va vous faire comme les trucs de coquille d'œuf. Vous savez, les trucs de... Ça va vous faire des ronds. Donc quand vous regardez dans un axe, ça vous fait comme un sinus. Si vous regardez dans l'autre, ça fait un autre sinus. Donc vous allez avoir des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets, des creux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait pour les coquilles d'œufs, hein, enfin pour les œufs. Parce que les œufs, c'est quoi? C'est une serre. Un peu allongée, certes, mais c'est une serre. Donc pour coincer les sphères, on fait quoi? On met une double variable. Bon. Donc là, vous avez le truc des œufs. Bon, d'accord. Alors maintenant, on va se dire, oui, mais on n'est pas con, nous. Parce que ici, là, t, enfin, comment dire t, z, c'était une constante aussi. Et là, on a dit z est toujours une constante. Alors maintenant, on va faire le cas plus compliqué. On va se dire, maintenant, si je prends ça et que je fais que z va varier. Alors, d'abord, ici, quand je prends z, ici, par rapport à mes coquilles d'œufs, si je prends z à une certaine hauteur, je devrais mettre en noir pour faire la comprendre, vous allez voir quoi? Vous allez voir comme des cercles, puisque ça coupe les choses. voyez, quand vous regardez. Si je mettais un plan, je coupais, eh ben, je verrais des cercles.
D'accord ? Donc ça, c'est Z.
Donc si Z égale constante, j'aurai des... Alors, si mon Z, je le mets en haut du truc, j'aurai des petits points. Tuc, 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 tuc. Si je le descends, j'aurai des petits cercles. Arrivé un moment, j'aurai un cercle, par exemple, au milieu, un grand cercle, et après, il va rediminuer. Mais les cercles seront à côté, ici, pour revenir à un petit point. Donc je vois que c'est une série de cercles. Bien. Alors maintenant, faisons que Z soit une variable. Donc on recommence, f de x. Donc f de x. Donc on fait une variable de x. Allez, je vais y mettre y et je vais y mettre z. Bon, je fais les trois d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si ce plan noir, il va bouger comme ça gentiment. Vous, 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 vous. Et qu'est-ce que vous allez voir, vous, visuellement ici? Vous allez avoir des cercles qui s'enchaînent les uns avec les autres et qui décrivent en fait une spirale. Vous partez en haut du sommet et vous allez voir comme une spirale se développer dans la partie ici supérieure, d'accord? Et après, vous verrez que ça passe dans une partie inférieure ici et que ça vous fera un machin comme ça pour arriver au point là. Bien. Alors maintenant, je vous pose la question. Quand vous regardez un électron, un électron qui tourne, c'est un point lumineux. Et ça, c'est quoi? C'est simplement un point lumineux qui va se déplacer car il est à la rencontre d'un x, y et d'un z. Trois vibrations en x, y et z fait que vous avez un point lumineux qui va se déplacer. Et là, vous l'avez trouvé, votre électron. Donc, si vous prenez l'aspect masculin, vous dites, ah, bah, il a une charge. Il a une charge, il a un poids, il a une masse, il a quelque chose. Mais si vous prenez l'aspect vibratoire, il peut passer par deux trous à la fois, hein, c'est pas le problème. Hein. D'accord? Donc ça, c'était un petit cours juste pour vous montrer que ce que vous voyez physiquement avec vos yeux, ce ne sont en vérité que des vibrations et des fréquences qui s'entrecoupent et qui vous donnent quelque chose. Voilà pourquoi le masculin, d'une certaine manière, naît du féminin. Pour la simple et bonne raison. C'est que c'est quoi une constante? C'est une variable qui ne bouge plus. C'est aussi simple que ça. Donc à partir des vibrations, on peut fabriquer les droites. À partir d'une droite, tu ne fabriqueras pas les vibrations. Ok? Donc, tout est vibration. Oui, mon ami. Et c'est pour ça que je vous dis que, quelque part, ce que vous voyez avec vos yeux sont en fait une illusion vibratoire. Mais vu via une géométrie. Vous dites, mon meuble, il est constant. Ma chaise, je la vois constante. Mais en vérité, elle ne l'est pas. Comment ça? Ben oui. Je vais vous dire une chose, ça, je sais que ça va vous prendre la tête. Je vais prendre un verre, par exemple, juste un verre. Je prends un verre. Ah. Et je vous dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux mesurer la hauteur du verre et le diamètre du verre? Bien, mon capitaine. Alors, on va prendre le mètre. Et dire, voilà, ça fait, je sais pas, 6 cm. Et j'ai dit, t'en es sûr? T'as mesuré avec quoi? Ah ben avec mon double mètre. Je dis, bon, enfin, la tête va être un peu plus précis quand même. Hein? Tu prends le pied à coulisse, hein, quand même. Bon, alors, hop, on prend le pied à coulisse. Et puis, on trouve qu'il fait 6,01 cm. Alors, il dit, c'est bien. Mais bon, on a quand même un problème, c'est quand même pas très précis. Hein? Moi, je voudrais une précision à 25 chiffres. Parce que maintenant, on travaille dans le nano. Donc, je veux une précision nanométrique, s'il te plaît. Alors, bah, vous prenez les appareils qu'il faut. Hein. Alors, bon, généralement, c'est ce qu'on appelle la spectro, c'est-à-dire que vous prenez par rapport à une référence vibratoire qui est renvoyée par le bord et vous mesurez le temps qu'elle met. Et donc, comme vous savez combien de temps elle a mis, vous pouvez compter combien ça mesure. Donc, on peut mesurer tout et n'importe quoi, tout simplement avec un rayon lumineux, un rayon, tout simplement. Et maintenant, quand vous prenez certains trucs pour mesurer, vous savez, vous prenez, vous mettez, et puis ça envoie un rayon et ça vous dit ça fait tant. On utilise simplement la longueur d'onde connue et on se dit ça met tant de temps à revenir, donc ça mesure tant. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Ça paraît bien. Mais on a un problème. On a une variable. Une variable qui s'appelle la température. Comment ça la température? Ah oui. Parce que si mon verre il a 0 degré, il va vibrer à une certaine. Enfin, il va vibrer. Il va être dans une dimension du 0 degré. Mais si je le mets à 30 degrés, il va se dilater. Donc il va être plus grand. Puis si je le mets à moins 30, il sera peut-être encore plus petit. Hein? Bon, donc là, il faut supprimer la variable de la température. Là, ça commence à devenir plus délicat. Donc quand quelqu'un vous dit, le truc mesure machin truc tant de nanos, tu dis c'est bien, à quelle température? Et là, tu dis ouais, mais la température, je ne l'ai pas mesurée. Bah, vas-y, maintenant, il faut la mesurer. Et puis jusqu'à quelle précision tu vas la mesurer? Parce qu'il y a juste une chose, c'est que si vous regardez à un certain niveau, ici, ce ne sont que des atomes qui vibrent. Ils vibrent. Donc ici, vous mesurez en fait une couche extérieure électronique d'un atome par rapport à un autre. Et c'est pour ça que tout bonnement, la température va influencer. Mais ça vibre en plus, parce que si on descend suffisamment bas, bah, l'atome, ça vibre. Et c'est pas statique. Alors comment vous allez mesurer, là, vous dites, bon, hors vibration. Ah oui, moins 273 degrés, mon ami, hein. Zéro absolu. Ah oui, mais zéro absolu, ça veut dire quoi? Par rapport à quoi? Bah, ça veut dire par rapport à la dimension dans laquelle on est. Parce que si tu sors de cette dimension, eh ben ça sera une température encore plus basse. Une autre, mais qui sera incompatible avec ta géométrie. Hein. Donc on voit bien que tout ce que nous mesurons, tout ce que nous représentons, tout ça, c'est que de la fadaise, c'est que de l'à peu près. C'est que de l'à peu près tout ça. Alors quand quelqu'un vient vous pinailler sur les trucs, vous pouvez le regarder droit dans les yeux. C'est une illusion en train de mesurer une illusion. Ça peut donner que de l'illusion. Or, on sait qu'en mécanique quantique, ils ont découvert ça, mais ils ne l'ont pas remis encore dans la version, on va dire, spirituelle. Ce qu'un créateur incarné regarde, modifie ce qu'il regarde. Résultat concret, encore plus mal barré, parce que si, tu as une autre fonction. C'est la fonction du regard. Du regard du créateur. On est mal barré là. Bon bref. Tout ça, c'était une petite démonstration simplement pour vous montrer que nous sommes dans un monde d'illusions, que les capteurs que nous avons sont des capteurs absolument approximatifs, qui n'ont absolument aucune référence véritable. Et que, en fait, en vérité, à chaque instant de votre vie, à chaque seconde qui passe, votre équilibre électromagnétique est modifié par les planètes, par votre circuit, par vos émotions, par votre regard, par vos croyances. En vérité, vous ne voyez le monde qu'à travers les multiples loupes que vous avez. Donc si on s'entend avec les autres, c'est sur les grands trucs. Hein. Mais il ne faudra pas aller dans les détails, hein, parce que c'est foutu. Vous comprenez? Tout ceci n'est qu'une illusion projetée sur un écran sphérique. Résultat, vous ne prenez pas la tête. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? C'est d'élever votre fréquence et de la maintenir. Élevez-la, maintenez-la, et puis bah, surtout, libérez-vous de tous les absolus que vous avez. Parce que tant qu'Einstein n'avait pas été là, le temps était un absolu. Et personne ne pouvait remettre en cause le grand Newton. Personne, absolument personne. Sinon, c'était t'es radié de la chair des scientifiques. n'auras jamais un job. Parce que tu dis pas ce qu'on te dit de dire. Comprenez la chose? Donc à chaque fois que quelqu'un est dans l'absolu, vous pouvez être sûr d'une chose. C'est qu'il a tort. Parce qu'il y a forcément plus fort que ça. Il y a forcément mieux que ça. Et tout dépendra, bien sûr, de sa vibration, où il en est, dans sa capacité à pouvoir les gérer, les différentes variables, mais aussi en fonction des différentes dimensions. Or, comme nous avons un paquet de dimensions, eh ben c'est le bordel, je confirme. C'est le bordel et c'est normal. Ok ? Donc, comprenez bien, à travers ce petit cours, ce que c'est une constante et une variable. Et généralement, quand vous trouvez quelque chose, dire oui, c'est comme ça, c'est que vous avez tout mis en constante. Il y a bien une chose que la nature nous apprend, que la création nous apprend, c'est que rien n'est constant. Et que même ce qui te paraît constant ne l'est pas à une autre échelle. Donc, tout est variable, tout est relatif, et c'est pour ça que dans les lois de l'un, tu es respectueux de tout, parce qu'en fait, tu sais que le simple fait d'être ici, maintenant, par exemple, dans cette feuille de l'arbre, tu n'es pas à la place de l'autre qui est juste à côté. Hein ? Ok ? Donc, plus on avance sur le chemin de la spiritualité, et plus on découvre non seulement une unicité de ce que l'on est, mais une unicité de point de vue. C'est pour ça qu'ils essayent de fabriquer du mouton. Parce que la diversité, entre guillemets, eh bien, c'est la sécurité pour tout. Alors que plus vous essayez de normaliser les choses, et plus ça devient délicat. Vous regardez par exemple la tempête de 99 en France qu'il y a eu concernant du vent. Toutes les forêts qui n'avaient pas de diversité, entre guillemets, se sont tous fait coucher. Parce qu'en fait, c'est les différences qui faisaient que tout se tenait. Et à force de faire des cultures mono quelque chose, eh bien, tout ça, ça tombe. Voilà pourquoi il y a autant de diversité sur cette planète. C'est en fait cette diversité qui fait que ça tient debout. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé avec quelques trucs mathématiques, mais vous savez, c'est du bon niveau. Hein. C'est vraiment du rat des pâquerettes. Mais au moins, si on m'avait expliqué ça déjà quand je suis arrivé en 6e, j'aurais quand même peut-être mieux géré mon cursus scolaire. Parce que moi, quand on me disait constante et variable et une fonction, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Mais maintenant, comme vous savez, que vous comprenez que ça, quand on dit une variable, c'est quelque chose qui bouge, donc c'est du féminin. Une constante, c'est quelque chose qui est figé, qui ne bouge plus. Yes, allez, je vous laisse là-dessus. Merci et à la prochaine.